C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallone de la revue Hémicycle et Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Roselyne.
Avec vos unes respectives.
Eh bien pour l'Hémicycle, c'est la violence et la politique, l'incendie, avec une tension croissante contre les élus, entre les élus et la violence d'ultra-droite et d'ultra-gauche dans la rue.
Et Politis ?
Et Politis, cette semaine, il y a deux numéros. Il y a le numéro hebdomadaire où on revient sur la situation en Palestine et la continuation de l'annexion des territoires. Et puis le hors-série que l'on consacre à la question du fascisme, la montée du fascisme et comment, aux quatre coins du monde, les résistances s'organisent.
Et que vous appelez l'épidémie.
Hein,
le fascisme est une épidémie. Le gouvernement s'interroge tout haut pour trouver des économies. Faut-il mettre fin à l'abattement fiscal des retraités ? Pour beaucoup, les boomers ont un niveau de vie supérieur aux actifs. Les boomers sont considérés comme une génération choyée qui a vécu une époque bénie et a une retraite confortable et qui laisse une grosse dette à leurs enfants. Faut-il toucher aux retraités ce matin ? Laurent Wauquiez s'est fermement opposé à toute augmentation d'impôts. Donc le problème auquel va se heurter le gouvernement, c'est cette opposition. Et on va parler après de les retraités votent et le RN les défend. Donc, équation compliquée.
Oui, alors c'est un peu un serpent de mer, cette affaire de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Vous avez raison, c'est quand même le point fondamental, c'est que les retraités sont la catégorie qui vote le plus aux élections et que donc personne n'a envie de taper dans leur portefeuille puisque ça peut coûter cher électoralement. Néanmoins, c'est un sujet qui revient. Il faut trouver, nous a expliqué le ministre de l'économie, 40 milliards pour le prochain budget pour faire reculer le déficit. Et évidemment, on cherche des économies partout et en l'occurrence, ça paraît une piste intéressante puisqu'il y a des arguments qui plaident en faveur de cette piste-là. Mais, vous l'avez dit, le Rassemblement national et désormais Laurent Wauquiez, ce qui est plus problématique puisque LR est censé plus ou moins faire partie de cette non-majorité ou de ce socle commun dont on se demande d'ailleurs ce qu'il a de vraiment commun au fil des mois. Problème politique. Mais le ministre de l'économie a été prudent. Il a dit que c'était une piste, qu'il l'envisageait avec les partenaires politiques, avec les partenaires sociaux. Ce n'était pas encore acté, mais qu'en tout cas, il ne s'interdisait rien. Et quand il va falloir trouver vraiment ces 40 milliards, je crois que ça représente quelque chose de l'ordre de 4 à 6 milliards, cette piste-là. Donc ça peut être aussi un dossier intéressant.
Est-ce que c'est une erreur, Pierre, de fixer tout de suite, de viser tout de suite les retraités, alors qu'on aurait pu mettre dans une globalité les retraites, d'autres sujets où on peut aller piocher de l'argent? Est-ce que décorréler d'un seul coup l'idée d'un tabou, de briser ce tabou des retraités, est une erreur politique? Et d'abord, est-ce qu'il faut le faire ?
La droite reste la droite. On a au gouvernement des gens de droite, donc il faut des propositions.
Mais il y aura aussi le commun, vous avez raison, comme le dit.
Il n'y aura pas de majorité sur une option comme celle-ci. On le voit bien, la gauche sera opposée, les LR sont opposés, l'extrême droite est opposée. Donc il n'y aura pas de majorité sur une proposition comme celle-ci. Mais ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui va être la construction budgétaire.
Voilà,
c'est ça. C'est pour ça que je dis la droite reste la droite et elle fait des propositions qui sont de droite. Elle ne cherche pas à récupérer, elle ne cherche pas à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, elle cherche à réduire les dépenses. Donc réduire les dépenses, ça veut dire taper sur les mêmes. On va réformer le chômage. On va attaquer les plus aisés des retraités. On va s'en prendre aux travailleurs et on va leur demander de travailler plus et plus longtemps. C'est la même rengaine de la droite. C'est assez classique. Après, il y a quand même une chose qui est sans doute plus politicienne dans ce qui a été proposé. C'est qu'on voit bien que du côté des partenaires sociaux, que ce soit le patronat ou même du côté de la CFDT, il y a le début de quelque chose où il y aurait un accord. Hein. Je crois que Marie-Lise Léon, la patronne de la CFDT, a déjà dit que c'était une piste sur laquelle elle pourrait tout à fait s'engager, ou en tout cas, elle était favorable à...
Oui, parce que ça va se discuter dans le fameux conclave.
Elle n'est pas, pas contre. Donc là, on sent bien que François Bayrou joue la carte de « vous voyez, j'ai des partenaires, enfin, une partie des partenaires sociaux avec moi contre la représentation parlementaire ». Encore une fois, je pense que ça va être très très compliqué. Là, on parle d'un bout, David le disait, on parle de 4-5 milliards d'euros, il cherche 40 milliards d'euros. Je ne crois pas que ce soit du côté des plus faibles, ou en tout cas de ceux qui ont le moins d'argent en France, qu'il faut aller chercher l'argent quand on en a autant
besoin. Oui, mais enfin, quand on regarde que le niveau de vie des retraités est aujourd'hui supérieur aux actifs, pour certains.
Oui, alors que effectivement, alors qu'il ne faut pas généraliser, mais effectivement, certains retraités sont aussi ceux qui cotisent le moins, ont un pouvoir d'achat important,
voilà.
ont souvent payé le crédit de leur appartement. Bon, mais après, une fois qu'on dit ça, on s'expose évidemment à la vindicte de cette oui. catégorie. Et juste un mot sur le RN, très intéressant, parce que ces derniers mois, c'est un peu toujours le même film qui passe, comme dit Francis Cabrel. On avait eu le même scénario exactement au moment du budget précédent, la discussion sur le budget précédent sous Michel Barnier, où le RN, qui vise évidemment cette catégorie électorale, puisque c'est l'une des catégories électorales, sinon la catégorie électorale la plus réfractaire traditionnellement au vote Rassemblement National, ce sont les plus de 65 ans, et on constate que Marine Le Pen s'était faite le héros de cette catégorie, avait fait un casus belli même de cette question par rapport à Michel Barnier, et avait fondé précisément la censure du gouvernement sur cette question. Et force est de constater que ça paye un petit peu, puisque le vote RN chez les retraités progresse un petit peu. Pas autant que Marine Le Pen l'espérait, mais en tout cas, il progresse.
Le match Retailleau-Wauquiez pour la présidence des Républicains continue d'agiter le landerneau à droite. Laurent Wauquiez avait évoqué l'idée d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon. Autant dire que c'est une idée qui a fait pchit, hein, y compris... Retailleau qui ne s'est pas gêné d'une petite phrase assassine. Une proposition, bien sûr, qui avait fait bondir. Bruno Retailleau, lui, l'un et l'autre sont-ils dans la surenchère, plutôt d'ailleurs du côté de Wauquiez ? C'est-à-dire qu'on va aller comme ça de propositions absurdes en...
J'ai suivi ce matin les deux interviews. L'un était interviewé sur France Info, l'autre, en l'occurrence, Bruno Retailleau est interviewé sur BFM. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'ils se parlaient sans s'entendre, mais ils se parlaient, ils se répondaient à des propositions ou en tout cas à une analyse de la situation. Alors vous avez raison, Roselyne, de dire qu'il y a sans doute une surenchère beaucoup plus importante du côté de Wauquiez, parce que lui, il n'est pas en responsabilité, il n'est pas au gouvernement. Mais il y a quand même quelque chose d'assez dramatique, effectivement, dans cette surenchère, parce que c'est une surenchère sécuritaire, une surenchère contre l'immigration. Du côté de Wauquiez, il est allé un peu chatouiller d'ailleurs Bruno Retailleau en disant « Ah ben regardez, Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il y a toujours 1 milliard d'euros qui sont destinés aux associations qui viennent en soutien, en aide alimentaire, d'eau, de secours, de duvet, etc. auprès des migrants, et que ça, il faudrait le supprimer, et que fait-il ? Il ne fait rien. » Et de l'autre côté, on a un Bruno Retailleau qui dit qu'il est droit dans ses bottes, il est à 100% en candidat à l'élection de la présidence des Républicains, et 100% il incarne le ministère de l'Intérieur. Et que de toute façon, il ne veut pas rentrer dans une polémique avec Laurent Wauquiez. Mais donc, du coup, on voit bien que, quand même, au cœur de cette bataille, effectivement, c'est celui, on le dit souvent, enfin, je le dis souvent ici, c'est quand même de celui qui sera le plus à droite que moi, tu meurs.
Mais est-ce que c'est un atout pour Bruno Retailleau, donc ministre de l'Intérieur, d'être justement à ce poste et aux affaires ou au contraire, ça peut être un frein pour faire campagne et le bilan qui est quand même compliqué avec les prisons qui sont attaquées, avec un sentiment que l'autorité vacille.
Alors, c'est vrai, c'est toujours compliqué, il faut le dire, de lire et de faire des pronostics sur un scrutin interne dans un congrès d'un parti, qu'il soit de droite ou de gauche. Là, on a vu que le nombre de militants avait presque doublé. Les inscriptions des derniers mois ont fait passer le quorum des votants de 50 000 à 100 000. Donc, toujours très compliqué. Même les plus fins spécialistes de la droite disent que ça risque d'être un peu serré. Malgré tout, sur le papier et sur nos écrans, on constate que Bruno Retailleau a quand même un peu crevé l'écran ces 6 derniers mois depuis sa nomination Place Beauvau. Ses cotes de popularité ont flambé à la bourse de l'opinion, ce qui n'est pas du tout le cas de Laurent Wauquiez. Et donc, Pierre, vous l'avez sous-entendu, il est effectivement dans la position du challenger qui est obligé, vous l'avez très bien dit, de jouer plus à droite que moi, tu meurs. Mais aussi d'insister sur la question des résultats. Et Roselyne, vous évoquiez le fait qu'on allait lui demander des comptes. Et ce n'est pas innocent qu'il ait appuyé avec cette proposition baroque sur d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, qui a effectivement fait bondir tout le monde, parce que ce n'est absolument pas sérieux sur le plan juridique, logistique, politique, tout ce que vous voulez, mais qui est une manière pour lui d'insister sur le fait qu'il y a un véritable problème avec ces OQTF, ces obligations de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées et qui exaspèrent de plus en plus l'opinion. Donc, est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus à l'extrême droite, et plus à droite et même plus à l'extrême droite, puisque même Marine Le Pen a fustigé cette proposition en disant que sans Pierre et Miquelon, si ma mémoire est bonne, en substance, n'était pas un dépotoir, et que Laurent Wauquiez a utilisé le terme de grand remplacement que même Marine Le Pen n'utilise pas. Je ne sais pas si c'est dans cette surenchère, cette course à l'échalote, cette course folle vers le vide, et en l'occurrence vers l'extrême droite, va permettre à Laurent Wauquiez de rattraper son retard supposé, mais encore une fois, soyons très prudents. Très prudents.
Ouais, comme disait Le Pen, père, vaut mieux l'original à la copie.
Les Français préféreront toujours l'original.
Mais dans cette surenchère, il y a quand même quelque chose d'invraisemblable. Moi, je trouvais ça assez surréaliste ce matin d'entendre Laurent Wauquiez. Alors, il y a eu cette proposition choc d'emmener les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais ce matin, il allait encore plus loin. Il a ciblé notamment France Terre d'Asile. Vous savez, France Terre d'Asile, c'est une grande association qui est d'ailleurs présidée par une de ses opposantes socialistes au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre. Et il accuse la France Terre d'Asile de vouloir mettre des bâtons dans les roues des expulsions. C'est ne pas connaître ce qu'est France Terre d'Asile. C'est quasiment un opérateur de l'État. Il est financé par l'État pour s'occuper des CADA, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, ce qui n'a absolument rien à voir avec les personnes qui seraient en situation irrégulière sur le territoire français. C'est des personnes qui sont en demande d'asile et qui sont accueillies par des structures qui sont dirigées par France Terre d'Asile. Et ben lui, il propose de supprimer les lignes budgétaires de l'État pour ne plus accueillir les demandeurs d'asile. Enfin, je veux dire, c'est même pas sur le fond.
Il y a un droit fondamental.
Enfin, il y a un droit, exactement. Il y a une législation. Les CADA ont le droit d'être financés par l'État. C'est même des opérateurs de l'État pour accueillir ces demandeurs d'asile le temps d'attendre leur demande. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est capable de raconter n'importe quoi. Donc, je pense qu'il est en train de se décrédibiliser. Je ne sais pas si les 50 000 qui sont arrivés chez les Républicains. Peut-être que ça parle, mais il faut faire attention. Et voilà, c'est ça. Je ne dis pas qu'il y en a un bon, il y en a un mauvais, mais au moins, c'est vrai que du côté, même s'il pense fondamentalement à peu près la même chose avec Retailleau, au moins, il y en a un autre qui raconte pas trop de conneries.
C'est un point qui est intéressant. C'est-à-dire que oui, il y a des petites nuances. Retailleau est peut-être un peu plus sur la fibre conservatrice, catholique, traditionnelle, etc. Mais il n'y a pas en réalité une feuille de papier à cigarette entre les deux. Et donc, ils sont bien obligés de se distinguer à la fois sur des questions de personnalité et pour Laurent Wauquiez, qui semble un petit peu en retard dans la course, par des outrances et des choses qui ne tiennent pas la route.
Oui, on dirait. Oui, il y en a un qui veut courir effectivement sans subtilité après le Rassemblement national. Et puis Bruno Retailleau, Catteau, voilà, droit dans
très conservateur.
Conservateur. Et surtout, ce que dirait Bourlange, la France en Lodène.
Oui, mais surtout, Roselyne, qui utilise la jurisprudence Sarkozy, c'est-à-dire que pour progresser en politique, il faut être aux affaires. En l'occurrence au ministère de l'Intérieur. Et on a vu un certain nombre de personnalités qui n'ont pas toutes eu le destin de Nicolas Sarkozy, mais qui ont grandement prospéré grâce au ministère de l'Intérieur. Je pense récemment à Manuel Valls, à Gérald Darmanin. Et aujourd'hui, c'est le cas de Bruno Retailleau. Mais on en revient au même point. Est-ce que la question des résultats ne va pas finir par les plomber? Pour prendre une autre métaphore cinématographique, Pierre citait tout à l'heure plus à droite que moi, tu meurs. Je me demande si Bruno Retailleau, lui, n'a pas intérêt à jouer, prends le parti et tire-toi, c'est-à-dire en gros s'emparer des Républicains et quitter le ministère de l'Intérieur avant que justement l'addition lui soit présentée.
Et c'est ça qui était étonnant ce matin dans l'entretien avec Bruno Retailleau. On entendait d'un côté Laurent Wauquiez dire de toute façon Bruno Retailleau n'a pas les moyens de sa politique, François Bayrou ne lui donne pas les moyens et que donc du coup c'est vain. Tout ce que raconte Bruno Retailleau serait vain et il ne sert pas à grand-chose. Hein, en substance, c'est ce que raconte Wauquiez. Et j'ai le sentiment quand même que
c'est d'ailleurs l'argument du Rassemblement national.
C'est aussi l'argument du Rassemblement national. Et j'ai quand même le sentiment que ça touche un peu Bruno Retailleau. Parce que ce matin, il était un peu sur la défensive. C'est-à-dire qu'il était moins en mode, vous allez voir avec mes gros bras ce que je vais faire, etc. Il était quand même un peu plus dans la souplesse et en train de dire, oui, qu'il n'avait pas toutes les marges de manœuvre pour faire ce qu'il avait envie de faire et que de toute façon, tout ne pourrait pas changer du jour au lendemain. Donc, il y a aussi un petit bouger, même si j'aime pas dire bouger, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même. On sent quand même qu'ils s'influencent l'un et l'autre.
Vraie question. Il y a 15 jours, Bruno Retailleau a été obligé d'organiser une conférence de presse pour présenter ses résultats, ses 6 mois de bilan au ministère de l'Intérieur. Force est de constater qu'il y a une petite évolution des chiffres au niveau des entrées des titres, des délivrances de titres de séjour, au niveau des OQTF qui sont véritablement raccompagnés. Mais évidemment, en 6 mois, il n'a pas eu le temps de révolutionner les choses. Il lui faudrait plus de temps et c'est précisément le problème, puisque là, son échec potentiel risque d'être souligné par tous ses opposants.
Alors, dernier point assez court, parce que c'est la fin. La mort du pape et la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments publics le jour des obsèques, c'est-à-dire samedi prochain, fait polémique. Et la France insoumise, enfin, un ancien membre de la France insoumise, évoque une laïcité à géométrie variable. Faut-il une application stricte de ce principe dicté par la loi de 1905, Pierre ?
Oui, ça va de soi. Il faut que la loi de 1905 soit respectée. Oui, après, moi, ça ne me pose pas de problème que le président aille aux obsèques du pape. C'est un chef d'État comme un autre. Ça me paraît logique. Maintenant, j'avoue que je vois toutes les chaînes d'infos qui sont H24 sur les cérémonies. On est encore. Je trouve qu'enfin, une chaîne d'infos, elle a vocation à donner de l'information. Elle n'est pas là dans l'émotion. Et j'ai le sentiment qu'on est dans l'émotion. Alors, certes, il y a quand même toute une population dans le monde. Beaucoup de monde, des millions et des millions de gens qui sont très affectés par la mort du pape. Je ne sais pas si ça nécessite que la France ait recours au drapeau en berne pour le dire. Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 6 personnes sur 10 qui ne croient en rien, enfin qui n'ont pas de religion, qui ne revendiquent aucune religion. Donc il faut faire attention, je pense, effectivement, à la manière dont on traite les choses. J'ai le sentiment là qu'on fait une grosse maladresse.
Intéressant de constater que d'ailleurs que François Bayrou lui-même a beaucoup changé de position. À l'époque de la mort, il y a une vingtaine d'années, du pape Jean-Paul II, il s'était opposé au fait que la France met les drapeaux en berne. Aujourd'hui, il est aux affaires, il ne s'y oppose pas. C'est un accord avec le président de la République, et son entourage explique qu'il a changé, qu'avec l'âge, eh bien, il s'est sans doute un peu rapproché de la religion. Mais je suis assez d'accord avec Pierre. C'est vrai que autant la relation diplomatique est normale, la visite aux obsèques du président est normale, autant le reste, bon, c'est pas forcément nécessaire.
C'était le cas pour le pape Benoît, je crois.
C'était pour Jean-Paul II. Jean-Paul II, visiblement, les drapeaux avaient été mis en berne, mais ça avait déjà divisé la classe politique.
Merci à tous les deux.
Merci.
À bientôt.